Amit Bossard-Selan, bonjour.
Bonjour.
Dans Le temps des monstres, vous vous livrez à un exercice périlleux pour un chercheur, republier les articles écrits au fil des années pendant lesquels les printemps arabes ont émergé, d'abord en Tunisie, puis ont duré, donc on citera hein, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen et le Bahreïn. Écrire donc à l'épreuve du temps, un défi que vous avez assumé. Quel constat en tirez-vous après vous être replongé dans ces articles qui ont analysé année par année cette période placée, comme vous l'écrivez, hein, sous le signe de l'imprévisibilité?
Alors, un double constat. En premier lieu, aujourd'hui, on peut dire que les révolutions arabes ont échoué. Je pense que le sens de ces révolutions reste encore pertinent. La quête de la liberté, la quête de la dignité, la quête de l'égalité, la quête d'intégrer la société démocratique pour laquelle beaucoup de sociétés aujourd'hui se battent. Donc je pense que le sens, le message reste encore extrêmement puissant. Et ce message peut être encore ravivé. Et on l'a vu récemment au Soudan, en Libye, au Liban et en Irak. Et de l'autre côté, comme en 1848, on peut parler effectivement d'une défaite des révolutions.
En parlant 1848, vous faites référence aux révolutions en Europe.
Aux révolutions en Europe, à commencer par la France, mais la France n'était pas le seul pays. Et Marx, qui terminait son manifeste parti communiste, s'est trouvé tout d'un coup effectivement en face d'une vague de révolution qu'il avait beaucoup enthousiasmé. Et en 1852, il disait que, sauf quelques exceptions, tous les chapitres de l'histoire des révolutions de 48 s'appelaient défaite. On est dans une situation analogue. Alors pourquoi cette situation? Je pense que les dynamiques qui ont précédé les révolutions de 2011, on était beaucoup trop puissantes. Parmi ces dynamiques-là, il y avait en premier lieu la transhumance militaire, djihadiste, qui ne s'était pas du tout éteinte, contrairement à ce qu'on a pu penser en 2011. Au contraire, cette transhumance s'est considérablement accélérée, de sorte à couvrir également les pays européens. La France en connaît quelque chose. En deuxième lieu, je crois que la dynamique de confessionnalisation qui avait été déjà là dans les années 1960, qui s'était accéléré dans les années 1980 avec la guerre Iran-Irak, s'est également considérablement renforcé. Et les puissances comme la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont joué un rôle dans cette confessionnalisation. Et en troisième lieu, je crois que la fragmentation des sociétés était allée beaucoup trop loin. Les révolutions n'ont pas été en mesure de résoudre l'immense question sociale. Et cette fragmentation c'est traduit aussi par le fait que la constitution d'une gauche et d'une droite démocratique arabe a été impossible. Et puis il faut mentionner aussi des interventions directes extrêmement néfastes de l'Iran, de la Turquie et de la Russie.
Notamment pour la Syrie.
Et notamment pour la Syrie. Et aujourd'hui on parle beaucoup de l'Ukraine. Et il y a un lien de causalité entre ce qui s'est passé en Syrie et aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine.
Est-ce que vous notez aussi dans votre livre donc s'il y avait un appétit commun revendiqué par les manifestants pour plus de liberté, plus de justice, de démocratie, dans le même temps il y avait année après année les prémices d'une restauration autoritaire ou d'une désintégration de certains États, notamment la Syrie en force milicienne?
Absolument. Dès 2011, à vrai dire, on voyait que les révolutions étaient dans une impasse parce que la rue contrôlait tout, mais la rue ne contrôlait pas les palais. Les palais étaient encore pleins, mais les palais ne terminaient pas la rue. Donc, de ce point de vue-là, il y avait effectivement une impossibilité de redéfinir le pouvoir à partir de la dynamique révolutionnaire. Et les anciens régimes, en quelque sorte, étaient malgré tout maintenus. Les leaders en Égypte et en Tunisie étaient partis, mais l'appareil de l'État restait. Et donc, la restauration était déjà là. Et surtout, je crois qu'effectivement, avec le déclenchement de la guerre civile, où j'appelle cela aussi l'état de violence, qui va de pair avec une désintégration considérable, avec la formation des milices, l'État lui-même devient une milice qui partage son espace de souveraineté avec d'autres milices. Ce phénomène-là s'est considérablement accéléré à partir de 2012. Juste pour vous donner une idée, en 2012-2013, en Syrie, il y avait 1200 milices. Et la naissance de l'État islamique, la victoire de l'État islamique, aussi courte soit-elle dans la durée, était une conséquence directe de cette milicianisation. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'utilise le terme de behemoth, le Léviathan qui est remplacé par le behemoth.
Le behemoth, c'est une une créature monstrueuse.
Voilà, voilà. Le Léviathan également.
Aussi, voilà.
Le Léviathan
donc,
également.
Quelle différence voilà. vous faites entre le Léviathan voilà. et le Béhémoth?
Alors, la différence est proposée déjà, bon, les termes sont bibliques, hein, et la différence est déjà proposée par Thomas Hobbes, le philosophe. Donc, le Léviathan est un tyran, mais est un tyran qui surplombe la société pour mieux assurer sa survie, alors que le Béhémoth surplombe également la société, mais pour mieux la détruire, elle la livrait aux passions voilà, meurtrières, aux passions de Thanatos, Thanatos étant le dieu de la mort.
D'où ce titre, le temps des monstres?
En partie, oui. Et ce thème de monstre a été quand même assez présent. Quand vous voyez Francisco Goya, qui est un grand peintre espagnol, l'un de ses tableaux est intitulé « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Voilà, au 19e siècle, ce thème de monstre est omniprésent. Dans les années 1920 et 30, ce thème de monstruosité, la société livrée aux monstres, est tout à fait présent. Et d'ailleurs, le titre vient de Gramsci, donc cet intellectuel communiste qui était dans l'attente d'une révolution socialiste. La révolution a eu lieu, mais cette révolution était une révolution fasciste. Et Gramsci disait, l'ancien n'est plus là, le nouveau n'est pas encore né, et le temps qui sépare ces deux moments, c'est le temps des monstres.
Justement, vous y faisiez référence tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre ce que l'on a pu noter pendant les printemps arabes et la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine?
Je pense qu'il y a non seulement des parallèles à établir, mais il y a une continuité qu'il faudrait rappeler. En 2013, le président Obama avait fixé une ligne rouge, l'usage des bombes chimiques.
En Syrie.
Or, dans la Ghouta orientale qui est à tous deux pas de Damas, les armes chimiques ont été utilisées, 1300 victimes, et à la dernière minute, Obama a décidé de ne pas recourir aux sanctions militaires, de ne pas frapper le régime de Bachar al-Assad et de négocier avec la Russie. Et je crois que Poutine a tiré tout de suite les conséquences. L'Occident a perdu sa virilité, son honneur. L'Occident ne peut plus résister. L'Occident est en déclin. Et l'occupation de la Crimée et d'une partie de Donbass en 2014 est la conséquence absolument directe de cette évolution. Alep a préfiguré ce qui s'est passé à Mariupol. Grozny, dans les années 2000, donc c'est la capitale de la Tchétchénie, avait préfiguré Alep, puisque Grozny a été rayé de la carte, et Alep a été en grande partie détruite, et Alep a servi effectivement de modèle de la destruction de la civilité, de la citadinité, de l'urbanité par la guerre. Mariupol est la conséquence directe de cette évolution.
Vous dites aussi que se repencher sur ces articles écrits il y a donc pour certains il y a une dizaine d'années vous a permis de cerner des angles morts pour les chercheurs comme pour les journalistes. Vous pouvez nous donner quelques exemples?
La question de la guerre, la question de la violence, la question de la décivilisation qui avait préoccupé dans les années 20 et 30 énormément de penseurs, la question de la destruction délibérée de la société, la question de la destruction de la rationalité, y compris la rationalité nécessaire aux survies du régime. Tous ces facteurs-là, effectivement, sont un peu hors notre cadrage quotidien dans nos démocraties qui sont devenues finalement tout à fait technocratiques, même fatalistes. Et donc, aujourd'hui encore, quand vous voyez dans le débat électoral en France, ces questions-là ne sont pas posées ou alors sont posées dans des termes complotistes, conspirationnistes. Et les angles morts, voilà, dès qu'on touche à la mort, non pas à la mort naturelle, mais à la mort en série, à la mort qui est aussi le meurtre de l'urbanité, on est en face effectivement des angles morts.
Merci Hamid Bossarslan.
Merci de votre invitation.